Vous écoutez CPU sur Radio FMR. Alors, je dois reconnaître que nous sommes dans une situation un petit peu particulière et même inconfortable, puisque nous recevons donc nos coproducteurs, en l'occurrence Karine Atsuar-Pouillot, directrice de l'association Combustible, tout fraîchement lauréate départementale de la Fondation de France, rockeuse au sein du groupe Bubblies, flingueuse de Candy Crush Saga et cosplayeuse de Playmobil.
CPU, carré, petit, utile.
Voilà, et maintenant je sors à petits pas et je te laisse diplomatiquement récupérer l'affaire.
Et je me demande comment enchaîner sur cosplayeuse de Playmobil. Alors on va peut-être évacuer cette question-là.
Bah, jusqu'à Playmobil, je sais pas quoi dire, je suis émue. Jusqu'à Playmobil, j'étais d'accord et du coup Playmobil, je suis dans l'expectative. Je ne sais pas d'où il l'a sorti.
Le cosplayeuse ou le Playmobil
Les deux. D'accord. Je ne sais pas trop. Je ne veux pas le vexer, le contrarier. D'accord. Je ne vois pas.
On va laisser ça pour l'imagination.
Il est créatif.
Ok. Ça me permet de faire partager mon soi-disant rire de hyène avec nos auditeurs. C'est parfait. Bien, bonjour à nouveau.
Bonjour.
Bonjour à vos auditeurs qui nous rejoignent à l'instant. Donc avec toi Karine, nous allons parler de la fracture numérique et donc de l'assaut Combustible qui travaille à réduire cette fracture. Alors avant de rentrer dans le détail, c'est quoi la fracture numérique pour vous à Combustible?
Waouh, j'ai 3 heures.
T'as 3 heures.
Qu'est-ce que c'est la fracture numérique pour nous à Combustible? C'est, on va beaucoup parler d'autonomie. Donc c'est autonomiser les citoyens sur les outils informatiques et sur les réseaux. Les autonomiser, ça veut dire quoi? Ça veut dire leur faire prendre conscience des risques, des opportunités aussi, et les libérer en fait par rapport à eux-mêmes et leurs craintes souvent dans lesquelles ils s'enferment, mais aussi faire en sorte qu'ils fassent attention à ce qu'ils font aussi. En gros, voilà, c'est réduire la fracture numérique, c'est faire en sorte que les citoyens soient autonomes sur les nouveaux outils.
Est-ce que vous êtes rendu compte qu'ils n'étaient pas autonomes? Il y avait des inégalités, en tout cas, d'autonomie.
Ouais, des inégalités, ça, c'est sûr. Est-ce qu'on s'est rendu compte de... Oui, je pense qu'on s'est rendu compte, mais je pense que comme tout le monde s'en rend compte, si t'es un peu à l'écoute autour de toi, de certaines personnes, et souvent ça dépend pas forcément de l'âge ni du niveau social ou de la catégorie sociale plutôt, je veux dire. Mais après, effectivement, il y a des territoires où il y a des catégories de personnes qui vont être effectivement beaucoup plus fragiles et beaucoup plus éloignées de cette autonomie par rapport aux outils.
Parce que juste pour terminer sur l'histoire, l'expression fracture, c'est-à-dire qu'il y a une séparation entre des gens qui le maîtrisent, on va dire, tous les usages numériques, et d'autres qui comprennent que dalle, quoi, pour résumer.
Je le dirais pas comme ça. Je pense que déjà il y a des paliers. Il y a des paliers donc de personnes qui vont être pour le coup vraiment totalement éloignées par la bonne et simple raison qu'elles vont pas avoir les moyens de s'acheter un ordinateur, qu'elles ont pas de connexion internet. On a certains publics qui sont des personnes sans domicile fixe. Donc là pour le coup on est éloigné. Ça veut dire que ça veut pas forcément dire que les personnes n'ont pas les compétences, mais qu'elles sont éloignées de l'outil physiquement, pour de vrai. Après, on va avoir d'autres personnes, genre des seniors, qui vont être beaucoup plus en capacité que d'autres d'ouvrir un navigateur internet, d'envoyer un mail, etc. Où là, ça va être vraiment les accompagner sur les sites, sur des choses où il va falloir sécuriser, comme le paiement en ligne, des choses comme ça, leur expliquer quels sont les risques, ou justement, des fois, réduire leurs craintes parce qu'elles s'empêchent de faire des choses, justement, parce qu'elles ont peur. Et d'autres où on est vraiment sur des personnes qui sont réfractaires. Et là, pour le coup, voilà, ça arrive d'en rencontrer de n'importe quel âge, de n'importe quel horizon, j'ai envie de dire, à qui il va falloir expliquer des dizaines et des dizaines de fois comment on envoie un mail ou comment on ouvre un navigateur Internet, jusqu'à ce que finalement, elles aient des clics à un moment parce qu'elles ont envie, parce que c'est le bon moment, quoi.
Ça concerne combien de gens en France ou simplement à Toulouse? Votre champ d'action, c'est Toulouse et la région.
Alors après, bon, je ne suis pas une spécialiste de la fracture numérique. Et je t'avoue,
c'est trompé d'invité.
j'ai pas préparé mon interview.
Est-ce que ça concerne beaucoup de gens ou c'est une minorité aujourd'hui?
Alors, sur les questions, je pense, d'éloignement de l'outil et des réseaux, je pense que ça concerne, je ne veux pas dire de bêtises, mais j'aurais tendance à dire que ça concerne de moins en moins de champs. Par contre, sur des questions qui vont toucher finalement beaucoup plus qui vont être beaucoup plus des outils de culture de masse, sans que ce soit un jugement ou quoi que ce soit, mais par rapport à l'usage qu'on peut avoir des smartphones, par rapport à l'usage qu'on peut avoir des tablettes, et je pense notamment aux plus jeunes, la fameuse génération X ou Y ou Z, je ne sais plus laquelle, mais qui naît avec ces objets connectés en main et qui sont hyper à l'aise dès leur plus jeune âge dessus, je pense que là, pour le coup, il y a toute une éducation à faire autour des données confidentielles, de sa vie numérique, qu'est-ce qu'on a envie de partager, de conscientiser en fait son identité numérique.
Sur les usages et...
Voilà, donc on n'est plus tellement sur une connaissance, bien qu'il y en ait une partie, mais sur une connaissance de l'utilisation des outils, on est moins là-dessus que sur une sensibilisation à l'utilisation de ces outils.
Comment vous en êtes venu, vous, à Socombustible, à travailler sur cette thématique et depuis quand vous êtes dessus ?
Alors, comment on en est arrivé là ? En fait, ça c'est... je te refais tout l'historique maintenant. C'est maintenant
vas-y,
ou
c'est maintenant.
C'est pas maintenant. Bon, c'est d'accord. Parti. Alors, Combustible.
2000 ans d'histoire, l'association Combustible. Tu nous mettras le petit générique en post-prod.
Le dessin animé là sur la vie.
Il était une fois.
Il était une fois la vie, ouais, j'adorais ça. Alors, pour faire rapide, ou pas d'ailleurs, on a une heure, donc si je vais faire rapide. Moi, ma vie, mon œuvre. Non, Combustible a 11 ans cette année. Donc c'est une asso qui a été créée à la base à l'initiative de l'équipe projet d'un groupe de rock qui s'appelait Bubblies. Et en fait, ce groupe, après être né et avoir grandi dans les années 90, en ce qu'on appelait à l'époque en do-it-yourself total, donc à s'autoproduire et des albums et des tournées et des flyers et de l'affichage et compagnie, fin des années 90, il n'y a pas vraiment encore Internet et le développement classique, quand on commence à avoir un peu d'audience, c'est finalement d'arriver à signer sur une major, d'avoir un contrat pour... qu'un gros label paye pour l'enregistrement des disques, investisse sur vous, etc. Et nous, on était jeunes et on a eu cette opportunité-là, on l'a saisie, on s'est dit, allez, super, on signe un contrat major. En fait, on l'a super mal vécu, il s'est passé des belles choses, c'est-à-dire qu'on est parti aux États-Unis enregistrer avec Nick Sanzano, le mec qui a produit Sonic Youth, Public Enemy, Zebda, IAM, Noir Désir, donc voilà, des images quand même plein à la tête et une super rencontre, quelqu'un avec qui on est encore amis aujourd'hui. Mais à côté de ça, ça a été, d'un point de vue de développement de notre propre projet et développement de ce qu'on voulait faire, artistique et tout, ça a été l'enfer, quoi. Et en fait, on a réussi, chose hyper rare, on était engagé sur 3 albums avec des clauses de... Enfin, on ne pouvait pas rompre notre contrat. Bref, on a réussi à trouver une faille dans le contrat pour réussir à rompre ce contrat-là et à retrouver notre liberté. Suite à ça, on était quand même pas mal abîmés et en même temps, on avait extrêmement envie de reprendre en main finalement nos projets, nos initiatives, qu'elles soient artistiques ou culturelles, d'action culturelle, ce qu'on appelle l'action culturelle. Et l'idée, ça a été de créer en fait un outil qui nous serve, qui pouvait nous servir à développer toutes nos actions. Cet outil, c'est Combustible. Mmh. Donc, on a créé une association.
En quelle année ?
Alors que ça fait 11 ans, je te laisse calculer, ça t'apprendra à poser des questions.
2005,
ouais.
C'est ça.
Et en fait, dans les Bubblies, on était quand même une belle bande de geeks, toujours sur un discours assez revendicatif, pas forcément dans les œuvres qu'on produisait, mais en tout cas dans nos actions. Et le premier projet qu'on a porté avec Combustible, c'était la première clé USB musicale entièrement personnalisée, en réaction à DatVSI. Feu DatVSI qui a été les...
DatVSI pour moi qui ne connais pas, c'est...
C'est les prémices de Hadopi. D'accord. Ça dit quelque chose, Hadopi ?
C'était la première loi qui a attaqué le principe même de présomption d'innocence.
Je vais réviser mes fiches.
Ouais. Et donc on était évidemment contre ça. J'ai d'ailleurs fait un mémoire de master sur sur cette question-là. J'avais un chapitre qui s'appelait 1 et 2 et 3 0 en hommage à Hadopi, justement. Enfin, bref. Ouais, merci, c'est cadeau. vous pouvez le retrouver sur le site de Combustible.
On mettra un lien.
Voilà. Mais pour dire à quel point on trouvait cette loi débile et surtout inutile, qui allait faire perdre de l'argent à tout le monde et qui servait en rien les artistes. Bref, donc on sort cette clé USB avec à l'intérieur, il n'y avait pas à l'époque pour, enfin, en gros, quand on presse un CD, on doit payer des droits à la SACEM. Quand on sort,
c'est pas la, c'est la société des droits de reproduction SDRM. Mécanique.
Oui,
voilà.
Tu veux vraiment qu'on soit précis, d'accord. Soyons précis. Oui. Et par contre, je sais pas où ça en est aujourd'hui, mais je pense que c'est à peu près la même.
C'est alors il y a une autre, c'est la SCPP, la société société civile des producteurs de phonographes qui taxe les
sur les clés USB,
les clés USB, les disques durs, les smartphones
ah,
et
bah,
tout
oui,
ça.
Oui. Ah oui, non, ça c'est la DAMI alors, monsieur. Ça, c'est la DAMI sur les...
Enfin, on s'en sort pas. Sachant qu'ils ne taxent que l'usage légal. Si tu pirates la musique, c'est... Oui, ben voilà. Ils n'ont pas le droit de toucher.
Nous, l'idée, c'était prenez notre clé USB, on l'a chargée avec nos petites mains, on a tout fabriqué nous-mêmes, et achetez-la et partagez le contenu. Et si vous voulez nous soutenir, venez au concert ou venez acheter du merchandising directement. Mm-hmm. Voilà. Bref, on était déjà dans une démarche très liée au numérique. Et sur ces projets-là, on a un journaliste qui vient nous interviewer, donc en la personne de Eugène Laun ou Olivier Hague, en civil. Et en fait, on se rencontre et on rentre en résonance les uns avec les autres, en gros, sur ces problématiques liées au do-it-yourself, au faire par soi-même, au fait de brider, enfin, au fait qu'on était contre le fait justement de brider les contenus culturels et globalement la politique. Général qui était lié au numérique à ces soi-disant protections qui marchaient absolument pas. Et le débat et les envies de travailler ensemble naissent à ce moment-là. Et donc c'était il y a maintenant ça fait 6-7 ans qu'on commence à lancer donc à l'initiative d'Olivier et via cet outil qui est Combustible. Des projets de sensibilisation, de formation, d'initiation au numérique, avec la particularité d'être tout sur logiciel libre.
C'est devenu la majorité de vos actions ou c'est encore...
Alors, c'est toujours compliqué parce qu'on est tous sur plein de choses. Il y a 2-3 ans, nous a rejoint Monsieur Philippe Pité, qui est par ailleurs dans ses triples vies plasticien depuis très longtemps maintenant et de renom, qui est aussi un des fondateurs de FMR, presque.
Il fait partie de la dizaine de,
voilà,
de fondateurs.
De fondateurs, donc un grand monsieur de radio aussi, et travaillant maintenant au sein de Combustible, donc notamment sur ses productions artistiques, mais pas uniquement, en lien avec Olivier. On développe toute une partie autour de... En gros, on utilise l'art pour développer la créativité via des outils numériques. Okay. Avec des jeunes publics, notamment. J'ai oublié ce que était ta question.
Le numérique, le pôle numérique et la réduction de la fracture numérique étaient le point central actuellement de l'asso. Il y avait d'autres aussi.
Alors, il y a toute la partie artistique, donc, qui est aussi liée à de la saisonnalité. Les Beublis se sont arrêtés l'année dernière. Autrement, pendant longtemps, ça a été un point d'orgue aussi. Et ça a occupé une grosse partie de l'asso. Et il y a toute une autre partie qui est sur... On fait beaucoup d'accompagnement à la structuration de projets, à l'entrepreneuriat culturel et artistique. Et de la formation aussi, sur des questions numériques, mais pas uniquement.
Ok.
Vous écoutez CPU sur Radio FMR et nous recevons donc Karine Pouillot, qui est directrice de l'association Combustible.
Est-ce que le clic, c'est la première chose que vous apprenez aux vraiment gens qui sont vraiment très très à l'ouest au niveau numérique ? Ou est-ce qu'on n'en est vraiment plus là ?
Aïe, alors, si je dois être complètement honnête, c'est pas moi qui suis sur le terrain, donc c'est mes petits collègues.
T'as bien dû entendre.
Ouais. Alors, comment dire, est-ce que le clic, c'est le premier truc qu'on apprend ?
Le fameux mulot dont vous aviez parlé tout à l'heure.
Lever le mulot avec la main qui se lève, qui reste un classique. Je pense que les gens qui en sont là, il y en a quand même de moins en moins. Il y en a quand même de moins en moins. Je pense que là où il doit y en avoir encore, c'est chez les seniors. Mais même sur les seniors qu'on a, ils sont... Enfin, au moins le clic, je pense que c'est tellement là sur les téléphones partout que ça, c'est à peu près acquis. Je pense, il doit en rester. Hein, mais...
Donc, ce que tu disais tout à l'heure, c'est que c'était plus sur les usages, sur l'utilisation de ces outils-là et sur ce que ça engendrait, les conséquences, que vous meniez vos actions, en fait, actuellement.
On est assez transversal. Hein. Je disais que ça. Tu me demandais en fait si la fracture numérique, si finalement cet éloignement des outils était la problématique la plus prégnante. Mmh. Et je pense que je te répondais que pas uniquement. Il y avait sur les nouvelles générations et sur les personnes averties, il y avait un autre boulot à faire. Donc on est assez transversal dans nos actions. On va, en gros, pour faire simple, on travaille avec trois sortes de publics. On a donc des ateliers seniors au Centre culturel de Bellegarde, mmh. où là on est sur maintenant on est sur deux groupes de niveau, je crois, vraiment initiation, et ensuite un truc qu'on a appelé perfectionnement, mais en gros c'est pour des gens qui veulent aller un petit peu plus loin et qui ont déjà des bases, à savoir allumer un ordinateur, ouvrir le navigateur, se servir du clavier, de la souris avec aisance.
C'est ouais. des gens qui ont eux-mêmes, ils ont quand même des ordinateurs chez eux, ils veulent s'améliorer, ou ils viennent découvrir l'ordinateur et ils ont contact avec ça. Qu'au moment de cette action, de cet atelier ?
Alors, il y a un peu des deux. Et de ce que me disent mes petits camarades, en fait, là où c'est le plus problématique, c'est pas tellement sur ce qu'on va appeler les primo-accédants, c'est-à-dire pour les gens qui vraiment n'ont jamais allumé d'ordinateur de leur vie, parce que finalement, on leur fait allumer, on les met devant un Linux, un Windows ou un OS Apple, pour eux, ça revient au même, quoi. Enfin, en tout cas, ils n'en ont jamais vu. Donc, là où c'est plus compliqué, c'est finalement pour ceux qui ont un ordi à la maison. Et ce qu'on essaye d'éviter, ce contre quoi on essaye de se battre, hein, c'est le classique du senior, ou pas forcément senior, qui a juste besoin d'aller sur Internet, surfer un peu, envoyer un email et éventuellement brancher une webcam de temps en temps pour communiquer avec la famille, et qui se retrouve dans un grand magasin, je vais pas citer de marque, mais dans un grand magasin, à repartir avec un ordi à 900 ou 1200 euros. Quoi.
Surdimensionné. Quoi.
Surdimensionné, qui coûte une blinde, et au final, n'importe quelle tablette PC ou PC reconditionné à 200, 300, 400 euros max aurait largement suffi. Quoi. Il va jamais ouvrir une application qui va avoir besoin de toute cette puissance-là. Quoi. Donc on essaye de lutter là-dessus, on essaye aussi donc, de les sensibiliser aux logiciels libres, hein, au fait que à l'utilisation aussi de leurs données personnelles, qui ne sont pas forcément obligés de passer par des services où ils sont obligés de laisser toute leur vie privée systématiquement pour s'inscrire à quelque chose. Quoi.
Ça, c'est une question qui concerne vraiment tout le monde. Je veux dire qu'on est un peu aux prémices de cette prise de conscience, à part dans les milieux un peu avertis, mais ça, du coup, là, sur cette question-là, vous touchez quoi ? Les enfants aussi, les ados, les...
Alors, on touche, je pense... pas mal les seniors là-dessus. On touche donc pas mal les seniors là-dessus. Les juniors aussi. Alors, sachant que nous, on travaille avec des CLAE, où là, on est plus sur des ateliers justement de développement de la créativité via des outils numériques. Donc, on va peut-être être moins dans de la prévention à ce moment-là. Quoi. Mm-hmm. Par contre, on est en train de travailler sur justement de nouveaux dispositifs en collaboration avec d'autres structures pour aller toucher un public qu'on ne touche pas trop pour l'instant, c'est les collèges et les lycées. Voilà. Après, on a d'autres... le dispositif Jimmy, donc jouer, inventer, manipuler, innover, qui est le fameux dispositif en direction des CLAE et des plus jeunes.
Les CLAE, c'est...
Les CLAE, c'est les temps périscolaires, en fait, donc à partir de 15-16 heures pour les enfants, donc après leur journée de classe, où ils ont des activités. C'est dans le cadre de la réforme scolaire.
D'accord,
en fait. Okay. Déjà, mais voilà. Et donc, c'est des temps d'animation en dehors du temps scolaire.
D'accord, ok.
Et ce dispositif-là, Jimmy, on le déplace aussi, on appelle ça Jimmy hors les murs, et on l'adapte à différents types de jeunes publics, où là, en fait, en fonction du public et en fonction de l'animation qu'on va pouvoir proposer, on va être effectivement sur... essayer de sensibiliser à ce genre de problématiques.
Qu'est-ce qui se passe quand vous arrivez, que vous dites attention à vos usages, attention à ce que vous laissez traîner sur Internet les gens, les publics qui s'en fichent, ou ça marche vraiment et il y a un déclic ?
Ce discours qu'on va avoir aussi pas mal avec les porteurs de projets. Justement, Olivier avait travaillé sur une étude il y a quelques années pour recenser les besoins des porteurs de projets issus de l'économie sociale et solidaire. Et il avait contacté, je crois, une soixantaine voire un peu plus d'assos qui évoluaient dans l'économie sociale et solidaire au sens large. Quels étaient leurs besoins et leur prise de conscience, justement, quoi. Et finalement, c'est plus à eux qu'on va s'adresser. Enfin, c'est beaucoup à eux aussi qu'on va s'adresser sur ces questions-là. Donc, assez régulièrement, on a quand même des gens, alors des gens qui vont essayer de développer une éthique un peu particulière dans le monde physique, enfin particulière en tout cas, qui ont la volonté d'avoir une démarche éthique dans le monde physique, qui vont, quand elles se rendent compte en fait que elles vont utiliser dans le monde numérique des outils qui correspondent absolument pas à leur éthique dans le monde physique, là c'est la grosse prise de conscience, le choc, et à se dire mais qu'est-ce que je peux faire pour éviter ça quoi.
Un exemple là de pour que ça soit vraiment concret, c'est quoi quand...
un exemple tout bête, c'est se dire des gens qui vont jamais aller au McDo par exemple parce que ils veulent lutter contre la malbouffe, qui consomment local, bio, éthique, et qui font en sorte de respecter leur alimentation et leur planète, et etc. Qui vont se retrouver sur Google ou sur Windows ou sur des et quand en fait ils se rendent compte des trusts que peuvent être ces grosses structures, des fermes de serveurs, de toute la machine qu'il y a derrière en fait, qui se disent mais finalement ça me correspond pas forcément, qu'est-ce que je peux faire pour fonctionner autrement, qu'est-ce que je peux faire aussi pour mon téléphone ou mon ordinateur, il a traversé la moitié de la planète, il a empoisonné les petits enfants, qu'est-ce qu'il faut que je fasse quoi.
Ouais, mais ces gens-là, donc quand on les met face à ce qu'on appelle les GAFAM, on ne va pas forcément leur dire il existe des alternatives aux grandes fermes de serveurs, c'est héberger ses propres données, on va quand même pas essayer de leur pousser ça. Ils découvrent déjà l'informatique, leur proposer à héberger leur on est carrément à les faire envoyer une fusée sur la Lune.
Je pense que tu parles à une convaincue, hein, je suis complètement d'accord avec toi. Et moi, je me retrouve dans une situation très souvent avec, une fois qu'on a pris conscience de ça, on se dit qu'est-ce que je fais quoi ? Qu'est-ce que je fais ? Mon téléphone, de toute façon, à part de rares initiatives, il sera toujours fabriqué, enfin, en tout cas, pour l'instant, il est fabriqué à l'autre bout du monde dans des conditions dont je préfère pas avoir forcément toutes les infos, parce que je pense que, voilà, mon ordinateur, c'est la même chose. Et certains outils dont je me sers au quotidien, j'ai pas forcément encore trouvé les alternatives qui me libres et éthiques justement. Mais cependant, c'est pas parce qu'on n'a pas forcément les réponses à toutes les questions que il faut pas se poser les bonnes questions quand même. Et je pense que c'est d'une prise de conscience collective qu'on arrivera à sortir des solutions qui pourront satisfaire justement et répondre à ces besoins-là. Et j'ai quand même l'impression autour de moi que dans tout ce milieu où ça grenouille, là, cet écosystème numérique, empreinte de SS, qui se pose des questions, il y a des initiatives qui sont en train d'émerger. Il y en a qui sortent, ce que je disais il n'y a pas très longtemps, par exemple, au lieu d'aller sur un Doodle ou on va sur un Framadate. Les Framapads aussi, on s'en sert. Enfin voilà, il y a des initiatives et puis il y a des choses un peu... Comme quand on est dans un magasin, on va acheter le produit dans le... dont le contenant va être recyclable. De la même manière, des fois, sur certains petits softs, plutôt que d'aller acheter systématiquement un truc, on peut se dire, je vais peut-être plutôt prendre celui-là parce que il est en licence libre, parce qu'il va correspondre un peu plus. Donc, globalement, je m'inclus dans ces personnes-là qui, à un moment, doivent avoir cette prise de conscience longue et cherchent des solutions, même si elles ne sont pas encore très claires. Mais c'est par cette réflexion collective, en tout cas, qu'on arrivera à construire un monde meilleur.
Nous reprenons donc avec Karine Pouillot, présidente de l'association Combustible.
Directrice.
Le président, il ressemble à autre chose.
Et un dernier quart d'heure qui va être un peu de l'impro, parce que bon, ça se passe souvent comme ça, les prévisions sont chamboulées, tout ça, et du coup, toutes mes questions sont parties à volo.
Je t'avais dit de bosser.
Oui, mais j'ai bossé.
Ça, c'est quoi cette chose ?
Oui, mais ça, on en parlera après. Chute, Xavier, t'inquiète pas. Petite question comme ça. Est-ce que, il y a la fracture numérique, est-ce que promouvoir des outils alternatifs, c'est juste pas utopique et il faudrait juste pas dire que tout le monde maîtrise Windows, des trucs comme ça simples. Enfin, je me fais l'avocat du diable, mais est-ce que ça serait pas plus facile en fait ? Pourquoi vous essayez d'aller un peu contre ça ?
Ça, c'est tout aussi facile que laisser couler l'eau quand tu te brosses les dents, que jeter tes déchets dans la nature, que tu vois, le raisonnement il est le même quoi. À se dire finalement si on faire quelque chose ça change rien, donc autant rien faire.
Mais pourquoi pour vous réduire la fracture numérique, ça passe par la promotion de ces outils un peu alternatifs ?
Alors, je pense qu'il y a deux choses, effectivement. Il y a la fracture numérique en soi, les personnes éloignées des outils ou qui ont des problèmes pour se les approprier. Et il y a ensuite le logiciel libre. On pourrait effectivement très bien réduire la fracture numérique avec du logiciel propriétaire. Ça pourrait tout aussi bien fonctionner. Je pense qu'il y en a beaucoup qui le font et que ça marche tout aussi bien. Après, nous, la démarche, c'est de se dire à travailler sur un problème, si on peut, dès le départ, implanter la petite graine de la conscience citoyenne au milieu, ça peut pas faire de mal, quoi. Voilà, notre démarche, elle est là, à se dire le travail qu'on fait, notamment avec les seniors ou avec des personnes qui vont être en situation, sur des situations sociales compliquées, c'est pas parce qu'on les aide à dompter un outil ou des réseaux qu'en même temps on peut pas travailler sur à essayer de construire avec eux ou juste de titiller leur conscience citoyenne autour de ces outils-là. Nous, l'idée de toute façon dans toutes nos démarches dans Combustible, c'est jamais d'apporter des réponses. Nous, on veut juste que provoquer les questions. Déjà, si les gens se posent des questions, pour nous c'est gagné, quoi. À savoir que nous-mêmes on s'en pose beaucoup et qu'on est loin d'être certain d'avoir les bonnes réponses. C'est peut-être pas sûr que là mes collègues vont me tuer, mais c'est peut-être pas sûr que le logiciel libre soit la réponse à tout. Bon, moi aussi je me fais l'avocat du diable, mais encore une fois, enfin, je fais souvent le parallèle avec l'écologie parce que c'est un peu la même chose. Pourquoi est-ce que moi, si je ferme le robinet, que je trie mes déchets et que je fais attention à ma façon de consommer, ça va changer la vie de Gaïa, quoi, quand je vois tout ce que les avions balancent, tout ce qu'on voit autour de nous. Finalement, qu'est-ce que ça change, quoi? Peut-être que ça change que moi, par rapport à moi, déjà, j'ai l'impression de regagner un petit peu de dignité et que j'ai l'impression de faire partie d'un tout et de participer à quelque chose, quoi. Donc, il y a toutes ces questions-là aussi qui peuvent se poser, en fait, d'où notre travail aussi autour de la citoyenneté, de la prise de conscience, de vivre, qu'est-ce que ça veut dire, le vivre ensemble, etc. Alors là, je l'exprime beaucoup, mais en fait, ça se fait naturellement. Finalement, c'est pas avec ces mots-là qu'on le met au quotidien.
C'est des questions, ça, la citoyenneté numérique que vous abordez vraiment et sous quel angle?
Est-ce qu'on l'aborde? Oui, on va l'aborder sur d'autres dispositifs. À un moment, on a développé un projet qui s'appelait Econ. Et l'idée, c'était de favoriser la création de biens communs numériques. Donc, favoriser la création de biens communs numériques, déjà, il faut que tu comprennes ce que c'est le bien commun numérique. Ça m'a pris quelques temps quand même, parce que c'est mes petits copains qui m'ont dit « On a un super projet, ça va cartonner !» Alors, évidemment, le « ça va cartonner » ne visait absolument pas un modèle économique, on est d'accord. Donc, le bien commun numérique, qu'est-ce que c'est? Déjà, le bien commun, qu'est-ce que c'est? Et numérique, on est ailleurs. Et réussir à nouer, à regrouper des gens autour de cette idée qui ont envie de porter ensemble des projets, c'est une belle ambition. Mais, alors, il y a des choses qui ont émergé, des idées qui ont jailli, des gens qui se sont rencontrés. Mais je pense qu'au moins, ça a au moins eu un impact. C'est qu'effectivement, il y a des gens qui se sont dit, et des écosystèmes qui ont entendu que on pouvait créer de manière bénévole ensemble des outils qui pouvaient servir dans le cadre du bien commun numérique. C'est-à-dire servir à tous, être appropriable par tous, par ceux qui en avaient envie, de la façon dont ils en avaient envie, en mettant dans ce panier commun le temps ou les compétences qu'ils pouvaient y mettre.
Comment on se situe ici à Toulouse sur cette question-là, comparé à, je sais pas, d'autres villes, Paris, Bordeaux? Est-ce qu'on est en avance, au même niveau ou en retard dans la sensibilisation à ça, ou est-ce qu'il y a plus d'acteurs ici ou moins d'acteurs ici? Est-ce qu'on peut se comparer un peu pour voir où on en est? Ou c'est difficile?
Je sais pas. Là, pour être complètement honnête, j'en sais rien. Et puis, je pense pas être la meilleure placée pour répondre à ça.
Non, mais tu dois connaître d'autres assos qui interviennent sur les mêmes secteurs que Combustible.
Ouais, déjà, il y en a sur Toulouse, c'est sûr. Je pense que, en fait, nous, et c'est aussi notre démarche, tu vois, par exemple, moi, je suis représentante pour Combustible du Labo des Usages, qui est porté par la mairie de Toulouse dans le cadre de la Smart City. On est avec Combustible, que je dise pas de bêtises, la seule association indépendante, c'est-à-dire dans lequel on n'a pas un CA composé d'entreprises ou avec des entreprises à l'intérieur ou lié à une université, etc. En gros, on est, euh, on est, les, on vient d'un terrain, en fait, dont on est les seuls issus, quasiment, tu vois. Les autres sont sur d'autres terrains. Il y a des gros, comme Veolia, comme RDF, comme les universités Paul Sabatier, etc.
Tu veux dire que les citoyens ne sont pas trop appropriés encore ces thématiques
c'est pas tellement ça. Ce que je veux dire, c'est que, pour rester sur ta question de départ, j'ai du mal à te répondre parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont sur des initiatives similaires aux nôtres un peu partout en France, mais que malheureusement, très souvent, elles sont éloignées de l'institution et donc elles sont peu visibles dans leurs initiatives. Et que nous, justement, un de nos chevals de bataille depuis longtemps...
Que vous promouvez.
Que nous promouvons, c'est...
c'est justement... C'est tellement plus simple de chanter en anglais, finalement.
Tu m'étonnes.
La petite parenthèse pour ceux qui ne vont pas comprendre, on a eu un débat orthographique sur la conjugaison du verbe promouvoir, qui s'est soldé par vous promouver.
Voilà. Donc, voilà. Et je pense que on n'est pas les seuls dessus. Nous, un de nos chevals de bataille, c'est de se dire, et depuis toujours, et c'était déjà le cas, et ça l'est toujours d'ailleurs dans notre démarche, quand on intervient sur les questions de politique culturelle, c'est de se dire, il y a des initiatives qui se construisent dans l'alternative, alternative au marché, alternative à l'institution. Il y a des politiques publiques qui sont construites justement et qui résonnent avec les valeurs de ces alternatives-là. Et à un moment, il faut réussir à faire de la médiation entre les deux, quoi. Et il n'y a pas que les grosses structures institutionnalisées qui ont le droit de citer dans le débat public. Il y a aussi justement ces acteurs alternatifs.
Est-ce que du coup, vis-à-vis par exemple du public cible des seniors, ça vous donne justement plus une légitimité par le fait que vous ne dépendez pas de la Fondation Orange ou bien de la région comme étant justement des personnes qui n'ont rien à vendre et donc sur lequel justement il n'y a pas quelque chose d'intéressé à expliquer les choses?
Je sais pas. J'ai l'impression que c'est beaucoup une histoire de personne. Et là, du coup, tu vois, on redescend d'un débat de politique générale à du terrain où les gens vont beaucoup dépendre... je vais y arriver. Où l'adhésion des personnes à des ateliers va beaucoup dépendre de la personnalité et de l'état d'esprit, finalement, des intervenants. Et nous, ce sur quoi on essaye d'être, c'est, et là où je suis admirative du boulot que font mes petits camarades, c'est leur patience et leur pugnacité et leur persévérance et toute l'énergie qu'ils déploient, quels que soient les publics avec lesquels ils soient, et de voir à quel point ils peuvent s'éclater à les accueillir, à leur expliquer des choses ou... Enfin, pour avoir fait de la formation, je sais que c'est une heure et demie avec des publics, avec un groupe de 10, 12, 14 personnes qui ne sont pas au même niveau, qui n'ont pas les mêmes attentes, qui n'ont pas les mêmes rythmes. C'est hyper compliqué. Donc, c'est vraiment une question d'acceptation. Je pense que notre force, au final, c'est qu'on est sur des intervenants qui viennent de parcours tout à fait différents, qui ont vécu plein de choses et qui font pas être choqués par telle ou telle attitude ou par tel ou tel décalage, parce que nous-mêmes, ça fait un peu partie de notre ADN quand même, le décalage, quoi. C'est ce qui fait qu'on se retrouve aussi, quoi. Et là, pour le coup, je pense que il y a beaucoup une question d'état d'esprit et de personnes qui accueillent et qui animent, quoi. Après, le fait qu'on soit indépendant, en grande partie, certainement, mais je dirais que ça doit plus peut-être se sentir dans la façon qu'on a d'accueillir et de transmettre que dans notre affichage en com.
Est-ce que votre message, il passe ou comment il est perçu par les autres acteurs du laboratoire des usages, par exemple, à Toulouse? Est-ce qu'on vous entend ou est-ce que c'est compliqué?
Écoute, déjà, ils nous ont invités, ils nous écoutent, ils nous donnent la parole, donc...
C'est déjà bien.
C'est déjà pas mal. C'est une bonne question. Tu sais, tu peux jamais trop savoir. T'es content quand t'arrives à peu près à maîtriser la forme du message que t'envoies. Donc de là à maîtriser la réception, c'est une autre histoire. On est autour de la table. On se questionne souvent à savoir s'il faut être dans ces instances-là ou pas. Globalement, notre posture, c'est tant qu'on nous donne la parole et qu'on nous demande notre avis, on le donne, quoi.
Est-ce que vous avez le sentiment d'être entendu?
Je pense que sur le numérique aujourd'hui, au niveau d'une collectivité comme la ville de Toulouse, Il y a une démarche de expansive, j'ai envie de dire, c'est le mot qui me vient là, c'est-à-dire que les métropoles du type de Toulouse aujourd'hui, elles ont besoin de beaucoup plus de numérique, beaucoup plus d'infrastructures, beaucoup d'initiatives. Donc on fait partie des acteurs. Est-ce qu'on est entendu ? J'en sais foutre rien, j'espère.
Votre action est quand même été reconnue, en tout cas récemment, par la Fondation de France. Mm-hmm. Qu'est-ce que c'est exactement cette récompense et qu'est-ce que ça vient souligner ?
En fait, il y a 2 ans, on a répondu sur un projet qui a été mis en œuvre, qui a débuté l'année dernière. Justement, en fait, on a répondu à un des appels à projets de la Fondation de France dans le cadre de la réduction des inégalités, il me semble, que je ne dise pas de bêtises. Et on leur a proposé de nous aider à financer ce qu'on appelle notre pôle numérique. Donc, à l'intérieur, il y a le Senior Lab, il y a les ateliers de Jimmy, il y avait aussi une part d'Econ, enfin, il y avait Econ, donc ce fameux dispositif de création de biens communs numériques. Et voilà, et donc ils ont retenu notre projet, ils nous ont aidés financièrement. Et en fait, tous les ans, la fondation, un comité au sein de la fondation, sélectionne des projets qui ont été aidés sur l'année précédente et leur remet des lauriers, donc départementaux, puis régionaux, puis nationaux. Et donc nous, on a reçu les lauriers de la Haute-Garonne avec une autre asso, parce que la Haute-Garonne, c'est assez gros, donc ils ont pris 2 lauréats. Et écoute, c'était assez inattendu.
C'est la première fois que ça vous arrive.
Ah oui, oui, c'est la première fois que ça nous arrive. Bah, en fait, déjà, c'était énorme qu'on soit financé par la Fondation de France. Il faut revenir à la base, quoi. Le combustible, c'est une asso donc, qui a 11 ans, qui existe, qui est solide, enfin, dans tout cas, pérenne non plus, non, je veux dire, enfin, qui a traversé les années. c'est moins risqué comme définition. Qui en est encore là, quoi, voilà. Mais en gros, à la base, c'est des rockers qui décident de monter une structure pour pouvoir développer des projets parce qu'ils en ont marre de bosser avec des clampins, quoi, pour faire... voilà. Ils n'étaient pas bien dans le secteur dans lequel ils étaient, donc ils veulent retrouver leur autonomie et créer une structure, quoi. Et la Fondation de France, c'est quand même la plus grosse fondation de France. Donc, à un moment, avoir cette reconnaissance d'une institution aussi importante et prestigieuse, pour nous, c'était une vraie reconnaissance, et en même temps de se dire, ben justement, dans notre démarche d'essayer de lier l'alternatif et l'institution, ben on ne s'est peut-être pas complètement planté. Et là, ben, ça a l'air de marcher, quoi. Sur ce coup-là, ça a fonctionné, donc c'est cool.
Bah, très bien, bravo pour vous en tout cas.
Merci.
Si des gens sont intéressés pour venir à vos ateliers ou... Comment ils font ? Est-ce que c'est ouvert ? Comment ça se passe ?
Donc, les ateliers seniors, c'est sur inscription. Mais le mieux, c'est d'aller sur le site internet de Combustible, combustible.fr. Donc, il y a des ateliers pour les seniors avec adhésion possible au trimestre au centre Bellegarde à Toulouse. C'est au centre de ville de Toulouse, à côté du métro Jeanne d'Arc. On a un programme dans les CLAE de la Rennerie, donc là c'est lié aux CLAE qui se déroule tout au long de l'année scolaire. Et après, en fait, en fonction des demandes et des projets, on va monter d'autres dispositifs. Donc on travaille avec Simplon, par exemple. On est en train de travailler sur un projet avec la Fondation FAS en direction des lycéens et des collégiens. On travaille avec des assos qui accueillent des personnes en difficulté sociale, voilà, où on est plus sur des séquences de quelques semaines ou sur des projets ponctuels ou sur des interventions ponctuelles. Et on a aussi les estaminettes. Donc ça, c'est des journées, des soirées de rencontres où on propose aux parents de venir avec leurs enfants pour découvrir les imprimantes 3D ou les cartes programmables.
Enfin, c'est les enfants surtout qui découvrent. Les parents, ils boivent une bière.
Ouais, donc c'était la fin de mon discours. En gros, c'est un petit bar et restauration sur place pendant que les grands et les petits s'amusent autour avec nos jouets numériques.
Et le prochain, ça aura lieu ?
Et merci de cette belle transition. Le prochain, c'est le 18 novembre chez Equito.
Ouais, et je tiens à remercier d'ailleurs votre participation pour les crypto-parties de printemps qu'on fait tous les ans aux alentours du 21 mars à Utopia Tournefeuille, puisque vous faites des ateliers pour les enfants à chaque fois. Et c'est vrai que c'est assez ludique. Et donc, les parents, ils sont à côté pour apprendre d'autres choses. Et des fois, on voit on voit des trucs avec les enfants, c'est extrêmement rafraîchissant et c'est vraiment, vraiment, vraiment très fun. Merci à l'équipe de Combustible à chaque fois pour nous aider là-dessus.
Ben merci beaucoup pour toutes ces infos, pour toutes ces actions aussi, pour nos fracturés numériques. Et puis, bonne chance, je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut souhaiter. Bon vent, comme d'habitude.
Merci beaucoup, merci pour votre invitation.